Cher Tidiane Camara, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi Ethiopian Airlines a-t-elle envoyé ses boîtes noires en France et pas ailleurs, pas aux États-Unis par exemple?
Je pense que la première raison est que le bureau d'enquête et analyse français est reconnu, a une compétence incontestable et incontestée. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième, probablement parce qu'il n'y a pas beaucoup de bureaux dans le monde, en tout cas pas en Afrique, qui puissent faire procéder à une telle analyse. Et puis, je pense qu'accessoirement, sans mettre en cause l'impartialité des Américains, la France, dans l'affaire, peut paraître impartiale. Voilà.
Mais justement, est-ce que les Américains ne peuvent pas soupçonner le bureau français de mauvaises intentions à l'égard de Boeing pour favoriser le concurrent Airbus?
Très honnêtement, je ne le crois pas. Le bureau d'enquête français a fait ses preuves, est composé d'experts tout à fait compétents et indépendants, et jusque-là, ils n'ont pas été pris à défaut. Et l'avion étant de fabrication américaine, les experts américains seront probablement sollicités.
Au niveau du FAA?
Oui, absolument, parce que c'est l'autorité de tutelle en la matière.
Alors, quelles sont à vos yeux les hypothèses les plus plausibles pour expliquer la catastrophe du 10 mars?
Je ne me hasarderai pas à donner une hypothèse, même si aujourd'hui tous les regards se tournent vers le constructeur américain qui, semble-t-il, pour cet avion-là, en tout cas cette version, n'a pas, pour ce qui est des instruments informatiques, de logiciels qui se trouvent dans l'avion, n'a peut-être pas pris toutes les précautions qui s'imposent. Tous les regards se portent vers l'avion.
Est-ce que tous les pilotes qui volent sur ce nouvel appareil ont bien été formés?
En théorie, on devrait le supposer, mais visiblement, des informations qui courent, non, ça n'a pas été le cas. Parce que si c'est ce logiciel qui est en cause, visiblement, les pilotes ou n'ont pas été formés ou n'ont pas été suffisamment briefés sur les procédures à appliquer en cas de décrochage lié à ce pilote automatique quand il prend en charge l'avion. Il est évident que même des pilotes formés, on les forme sur des simulateurs et quand on vit un incident en réalité, les réactions peuvent être différentes de ce qu'en théorie on est supposé faire.
De façon générale, est-ce que les pilotes d'Ethiopian Airlines sont bien formés?
Oui, on ne peut pas mettre en cause la formation des pilotes d'Ethiopian comme de toutes les autres compagnies africaines, enfin la grande majorité des compagnies africaines, quoi. Il n'y a pas de raison de douter. Ethiopian Airlines respecte tous les standards requis en la matière, donc je ne suspecte pas la formation des pilotes et la compétence des pilotes d'Ethiopian. Même si, quand même, je dois dire que, à écouter tout ce qui se dit ces jours-ci, on a le sentiment que la compétence en la matière en Afrique ne se trouve que chez Ethiopian. Ce que je veux dire là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes qui respectent les mêmes normes, qui ont les mêmes standards et qui sont tout aussi compétents qu'Ethiopian Airlines.
Vous pensez à Royal Air Maroc, vous pensez à South African Airways, vous pensez à quelle compagnie?
Je pense à toutes ces compagnies-là. Personne ne mettrait en cause les compétences ou la formation des pilotes de la RAM, de Tunis Air, d'Ethiopian, de South African ou de Kenya Airways.
Ou d'Air Mauritius.
Ou même d'Air Burkina. Je veux dire, Air Burkina est la plus petite compagnie d'Afrique de l'Ouest et elle existe maintenant, ça doit faire. Elle est même la plus ancienne. Elle n'a pas connu un seul incident, pas un seul accident. Et ces avions volent tous les jours. Vous savez, les compagnies aériennes ont des autorités de tutelle qui veillent au respect des normes de sécurité dans l'exploitation de ces compagnies aériennes. Et les aviations civiles africaines, dans leur très grande majorité, ont les compétences qu'il faut pour ce faire.
Alors, Ethiopian Airlines a connu une croissance très rapide ces dernières années. Est-ce que c'est bon signe?
Écoutez, on peut légitimement se poser cette question. Est-ce qu'on peut croître de cette façon exponentielle en si peu de temps sans que cela ait des conséquences? Moi, j'avoue que je suis un peu bluffé par la croissance d'Ethiopian en 10 ans. Elle a multiplié son trafic passager par 7 ou par 8 en 10 ans. Aujourd'hui, son trafic passager doit tourner autour de 10 millions, ça devait être autour de 10 millions il y a 10 ans. Au-delà de la croissance propre d'Ethiopian Airlines, est-ce que Ethiopian Airlines a suffisamment de compétences, de ressources humaines pour gérer, pour animer, pour encadrer tout ça? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. A priori, oui, puisque ça se passe bien.
Mais peut-être a-t-elle eu les yeux plus grands que le ventre?
Je dirais pas ça. Je dirais qu'elle a profité de circonstances exceptionnellement favorables. Il faut dire qu'Ethiopian a en face presque pas de concurrents. Elle a profité d'un certain nombre de choses, de la libéralisation de l'exploitation des droits de trafic que la décision de Yamoussoukro qui est rentrée en vigueur en 2002, année où Air Afrique a disparu. Et toutes ces compagnies en Afrique de l'Ouest et du Centre, toutes les compagnies qui étaient là, qui auraient pu être des concurrents à Ethiopian, là ont peu ou prou disparu. C'est le cas d'Air Afrique, d'Air Zaïre, d'Air Gabon, de Tamer, et ça c'est en Afrique. l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En Afrique de l'Est, il y avait Eastern Airways qui a disparu, des trois pays qui l'a composé, il y a que Kenya Airways qui a un réseau qu'on peut considérer comme relativement panafricain. Et que l'Afrique australe, il y a South African, dont l'histoire n'a pas privilégié son expansion en Afrique. Elle a mis du temps à regarder ce côté-là et l'instabilité presque chronique de son top management n'a pas facilité les choses. Alors, ces circonstances, combinées au fait que vous avez à Addis Abeba le siège de l'Union africaine, de la CEA, avec toutes ses ambassades, c'est des millions de passagers. Et ce marché est captif pour Ethiopian Airlines. Elle était totalement captif, elle est un peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ethiopian bénéficie de la protection alors totale de ses autorités. Donc, toutes ces circonstances-là font qu'une telle croissance peut s'expliquer. Voilà ce que j'en pense. Est-ce que Ethiopian a eu les yeux plus gros que le ventre? Ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire, puisque ça se passe relativement bien.
Mais la croissance a été très rapide.
Ah oui, plus que ça. Je ne sais pas s'il y a un équivalent dans le monde, mais j'avoue que c'est assez bluffant comme croissance. Et là, il faut que le reste suive.
Alors, depuis le drame du 10 mars, de nombreux pays ont interdit de vol le 737 MAX. Est-ce que ce n'est pas très pénalisant pour certaines compagnies aériennes qui desservent l'Afrique?
Ah oui, toutes les compagnies qui utilisent cet avion-là vont avoir des problèmes, vont avoir une tension de flotte, parce que c'est des avions qui vont devoir rester au sol. Même les pays qui n'ont pas interdit l'exploitation de cet avion-là, ils vont y arriver. Donc, ça ne va pas être simple.
Et vous pensez à quelle compagnie en particulier?
D'abord, Ethiopian Airlines, parce que c'est la principale concernée et toutes celles qui disposent de cet avion-là.
Royal Air Maroc possède 4 737 MAX. Mauritania Airlines en possède 1. Est-ce que ces compagnies peuvent être impactées?
Ah oui, nécessairement. Il faudra que ces compagnies trouvent des alternatives à ces appareils-là. Alors, soit en louant des avions, soit en délestant des lignes. En tout cas, il faut trouver une solution, parce que je ne pense pas que Mauritania Airlines puisse être lourdement handicapée, parce qu'elle a une flotte de 3 ou 4 737 et son réseau n'est pas aussi dense que cela. À mon avis, une compagnie comme Air Mauritanie s'en sortirait plus facilement que d'autres.
Est-ce que ces compagnies peuvent se retourner contre Boeing pour demander des dédommagements?
Ah oui, nécessairement. À mon avis, cela va se faire. Boeing doit être même préparé déjà. Il est évident que ces compagnies vont demander des dommages et intérêts et ça va être lourd, la facture pour Boeing.
N'y a-t-il pas aussi des compagnies africaines qui ont l'habitude de louer des 737 MAX à des affréteurs comme Swift Air ou Lion Air?
C'est possible, mais je n'en ai pas connaissance. Donc je ne vois pas des compagnies en dehors de ceux du Maghreb, enfin ceux du Nord, c'est-à-dire qui va du Maroc à l'Égypte, et South African, et ceux de l'Est, Kenya Airways, et Rwandair qui se développent aussi rapidement. Je ne vois pas quelles sont les compagnies qui peuvent être concernées par ce problème-là.
Cher Tidiane Camara, merci.